Les informations présentées par Anne-Laure Chouin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. 6 pays de l'Union européenne ont réussi à s'accorder pour accueillir quelques dizaines de migrants bloqués depuis une semaine sur un navire de garde-côtes italien. Mais déjà, un autre navire avec à son bord d'autres personnes ayant fui leur pays demande à accoster. Les précisions dans ce journal. 715 logements seront construits en Cisjordanie pour les Palestiniens, 6000 pour les colons israéliens. Décision d'Israël aujourd'hui avant l'arrivée de Jared Kushner qui doit présenter un plan de paix pour la région. La forêt sibérienne brûle comme presque tous les ans, mais cette fois dans des proportions impressionnantes. Le Kremlin s'est enfin décidé à envoyer l'armée sur place. En France, nous verrons que les abeilles meurent dans des proportions elles aussi inquiétantes. Ce sont en tout cas les premiers résultats de l'observatoire de la mortalité des abeilles mis en place il y a 2 ans. Et puis nous irons à la fin de ce journal visiter le tout nouveau musée Louis de Funès, inauguré ce soir à Saint-Raphaël. Ils étaient bloqués depuis une semaine sur un navire de garde-côtes italien, le Gregoretti. Plusieurs dizaines de personnes migrantes vont enfin pouvoir débarquer en vertu d'un accord trouvé entre l'Italie et 5 pays européens sous la houlette de Bruxelles. Ils seront répartis entre ces pays et l'Église italienne. C'est la résolution donc d'un énième bras de fer entre le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini et les autres pays de l'Union, toujours au sujet des migrants. Les précisions depuis Bruxelles de notre correspondante Lakshmi.
Après 3 jours de discussions entre États membres, 5 d'entre eux ont finalement accepté de prendre en charge les migrants. Il s'agit de la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande. Notre pays est fidèle à ses principes, responsabilité, solidarité et coopération européenne, a indiqué le président français. Par ailleurs, l'Église italienne a aussi annoncé accueillir plus de la moitié des naufragés. 131 migrants ont été sauvés en mer et étaient bloqués à bord du navire des garde-côtes italiens au large de la Sicile. Depuis jeudi dernier. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, refusait de les laisser sortir tant qu'un plan de répartition n'avait pas été convenu avec l'Union. Le boulot est fait, mission accomplie, se réjouit-il désormais sur Twitter. Cette solution, discutée au cas par cas avec chaque État membre pour savoir qui est prêt à recevoir des migrants, a déjà été utilisée à plusieurs reprises lors de cas précédents de blocage de bateaux, faute de mécanismes automatiques de solidarité entre Européens. La Commission européenne demande une nouvelle fois aujourd'hui aux 28 de trouver une solution pérenne. Car l'histoire se répète déjà, l'Italie annonce qu'un autre navire transportant des migrants et actuellement au large des côtes ne sera pas autorisé à entrer dans les eaux italiennes.
En Cisjordanie, une décision assez rare de l'État israélien qui a autorisé la construction de 715 logements pour des Palestiniens dans la zone appelée C, une zone occupée de Cisjordanie. Par ailleurs, 6000 logements pour colons israéliens seront également construits. Le tout avant l'arrivée cette semaine de Jared Kushner, conseiller et gendre de Donald Trump, censé proposer un plan de paix dans la région et qui n'est un interlocuteur que pour Israël. Sur place, la correspondance de RFI pour France Culture de Marine Vlaovic.
C'est un fait assez rare pour être noté. Le gouvernement israélien a approuvé hier la construction de 715 unités d'habitation palestinienne dans la zone C de Cisjordanie. Placée sous le contrôle exclusif de l'armée, elle couvre 60% de ce territoire occupé et d'ordinaire, Israël y empêche les constructions de logements palestiniens. Ce feu vert est donc surprenant et déséquilibré car le gouvernement israélien a annoncé en parallèle la construction de 6000 logements dans des colonies israéliennes. Benjamin Netanyahou, qui a dû convaincre l'aile droite de sa coalition, souhaite surtout montrer sa bonne volonté auprès des États-Unis, alors que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump et l'architecte d'un illusoire plan de paix américain, entame une visite au Proche-Orient. Objectif, faire le service après-vente du volet économique de son deal du siècle présenté en juin dernier. Et ce tour de passe-passe israélien a aussitôt été critiqué par les dirigeants palestiniens qui dénoncent une tentative de légaliser les colonies israéliennes de Cisjordanie et affirment qu'ils continueront à boycotter l'initiative de paix américaine.
Marine Vlaovic, un lapin, c'est comme ça que les médias brésiliens ont qualifié l'entrevue ratée entre le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le président brésilien, Jair Bolsonaro. Les deux hommes étaient censés se rencontrer en début de semaine dernière pour évoquer notamment le traité commercial du Mercosur et son versant développement durable, comme la protection de la forêt brésilienne dont les arbres sont abattus à tour de bras. Mais à leur dite, Jair Bolsonaro avait rendez-vous chez le coiffeur, visiblement. Les précisions sur ce rendez-vous manqué avec notre correspondante à Rio, Sarah Cozzolino.
12 minutes de vidéo qui pourraient mettre en péril 20 ans de négociations. Le quotidien Folha de São Paulo relaie l'inquiétude de diplomates brésiliens. Ils craignent que l'attitude de Jair Bolsonaro fragilise l'accord commercial entre le Mercosur et l'Union européenne conclu en juin. Du côté du gouvernement brésilien, on explique que Jair Bolsonaro travaille de 4h du matin à minuit. Il faut bien qu'il trouve un moment pour se couper les cheveux entre les deux. Le journal O Globo attribue plutôt cette annulation à une vengeance de la part du président brésilien, contrarié que le ministre français ait rencontré des défenseurs de l'environnement, ses opposants, la veille. Côté français, le geste est perçu comme une énième marque de mépris. Quelques heures avant le rendez-vous, le chef d'État brésilien avait déjà averti qu'il ne se soumettrait pas aux pressions françaises, persuadé qu'il serait attaqué sur les questions environnementales. Le ministre français a terminé sa visite brésilienne par une rencontre avec João Doria, gouverneur de l'État de São Paulo, un État qui respecte l'accord de Paris, selon les mots de Jean-Yves Le Drian. Le gouverneur est ouvertement en désaccord avec le président brésilien. Il serait un de ses concurrents à la prochaine élection en 2022.
Deux gigantesques feux de forêt ravagent depuis plusieurs semaines la Sibérie. Des millions d'hectares de forêt ont été calcinés, des villes entières recouvertes par la fumée, des incendies qui n'avaient donné lieu jusqu'à présent qu'à très peu de réactions du Kremlin. Les ONG environnementales s'en étaient d'ailleurs émues, mais aujourd'hui Vladimir Poutine a finalement ordonné à l'armée de venir en aide aux pompiers. Il faut dire que ces incendies ont pris une ampleur telle qu'ils pourraient accélérer le dégel des glaces de l'Arctique. À Moscou, le reportage de Jean-Didier Revoin.
Sur ordre de Vladimir Poutine, l'armée interviendra auprès des pompiers pour lutter contre les incendies qui ravagent la Sibérie depuis plusieurs semaines. Il aura fallu que pullulent sur les réseaux sociaux des selfies de simples citoyens ou d'artistes reconnus portant un masque médical orné de l'inscription « La Sibérie brûle » pour que le pouvoir central réagisse enfin devant la passivité des autorités locales. Dans des villes comme Omsk ou Krasnoïarsk, l'épaisse fumée dégagée par les incendies rend par moments l'air irrespirable. Hier, le Premier ministre Dmitri Medvedev avait déjà rappelé à l'ordre les autorités local.
Chaque dirigeant d'un sujet de la fédération, chaque gouverneur doit gérer cette situation sous son contrôle personnel. Pas simplement faire de déclarations générales ou pointer le ciel du doigt, mais gérer cette situation personnelle.
Si les autorités locales sont obligées de protéger des flammes, les lieux habités et les infrastructures, elles peuvent en revanche, depuis 2015, laisser les incendies se développer si elles estiment que le coût de la lutte contre le feu est plus élevé que celui des potentielles destructions. Une passivité qui s'explique, selon le directeur de la lutte contre les incendies de Greenpeace Russie, par l'état définitif finances des régions concernées.
Oui, c'est une question de pauvreté. Les régions n'ont pas les moyens d'éteindre les incendies dans les régions isolées.
En cette année de sécheresse et de température anormalement élevée, les conséquences sont alarmantes. L'équivalent de la Belgique est déjà parti en fumée. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
La décision n'est pas encore officielle, mais tout le monde la commente d'ores et déjà. La Fed, la banque centrale américaine, devrait annoncer ce soir qu'elle va baisser ses taux directeurs et rejoindre ainsi le camp des banques centrales qui adoptent une politique monétaire dite accommodante. Une baisse qui devrait être de 0,25 points. On rappelle que les taux directeurs des banques centrales conditionnent les taux d'intérêt de tous les autres crédits, y compris ceux accordés aux particuliers. La Banque centrale européenne avait fait de même il y a peu, mais pourquoi la Fed américaine lui emboîte-t-elle le pas? Alors que le rythme de croissance aux États-Unis affiche une bonne résistance. Deux raisons à cela, selon l'économiste Jean-Paul Bettebez. Écoutez-le, il est interrogé par Sarah Ders.
Aux États-Unis, M. Powell va baisser ses taux d'intérêt. Un peu parce qu'il n'a pas assez d'inflation. Il se dit qu'en baissant les taux d'intérêt, ça aidera à ce que la croissance se continue et que comme ça, un jour, il ait plus d'inflation. L'autre raison est évidemment que Powell est sous pression du président américain et que s'il ne le fait pas ce soir, il perd son poste ce soir. Donc on est effectivement dans une situation qui est économique et politique aux États-Unis, mais elle est aussi économique et politique en zone euro où les taux d'intérêt vont baisser en septembre parce que la croissance cette fois-ci en zone euro n'est pas suffisante. Donc on est bien dans un monde qui se regarde. Le monde américain est un monde qui dit qu'il n'a pas assez de croissance et d'inflation. Fondamentalement pas assez de croissance, grosso modo autour de 2% quand même, et une inflation autour de 1, alors que le pays en zone euro, on dit qu'on a 1% de croissance et 1% d'inflation. Donc on a deux mondes qui se regardent et qui se font en fait concurrence.
Elles sont un indicateur très fiable du déclin de notre biodiversité. Les abeilles mellifères meurent de plus en plus et ça n'est pas une bonne nouvelle. Un observatoire des mortalités et des affaiblissements de l'abeille mellifère a été mis en place fin 2017 par le ministère de l'Agriculture dans deux régions, la Bretagne et les Pays de Loire, puis en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019, justement pour observer de plus près le comportement de ces abeilles et permettre de signaler d'éventuelles anomalies. Cet observatoire rend aujourd'hui ses conclusions. Bonjour Cédric Hermel.
Bonjour.
D'où il apparaît que la structure mise en place est efficace, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que le taux de mortalité des abeilles observées est tout à fait inquiétant.
Un pourcentage qui augmente depuis une dizaine d'années. Il atteint en moyenne 30% pour une ruche alors qu'il oscillait entre 10 et 15% il y a une décennie. Un chiffre très inquiétant pour Axel de Courty, responsable de l'unité protection des abeilles à l'ITSAP, l'Institut scientifique apicole, d'autant plus que la statistique peut être beaucoup plus élevée.
Certains apiculteurs peuvent perdre 80%, 90% de leur colonie. Donc oui, c'est anormal. C'est anormal, on s'entend sur un taux normal de perte entre 10 et 15%. Donc vous voyez qu'on est largement au-dessus.
Comment est-on arrivé là? C'est en raison de causes pourtant connues des éleveurs et des scientifiques.
De façon générale, vous retrouvez trois grandes catégories, hein, les polluants, les maladies, les parasites, les prédateurs, donc la deuxième catégorie plutôt des dangers biologiques, et puis la troisième catégorie, c'est les pénuries alimentaires. Ces trois catégories, malheureusement, agissent souvent ensemble, l'une après l'autre, qui entraînent vraiment des effets en cascade.
En plus de la mortalité, les apiculteurs constatent que leurs abeilles sont plus affaiblies, et c'est justement pour essayer de trouver des solutions qu'a été créée l'OMA, qui recense le taux de mortalité des abeilles et peut aussi aider les apiculteurs en cas de problème, par exemple en envoyant un vétérinaire spécialisé sur les abeilles. Dans les régions test, par exemple en Bretagne, le téléphone a sonné jusqu'à 5 fois par jour ces derniers mois.
Cédric Hermel, merci beaucoup. La SNCF est revenue dans le vert au premier semestre 2019 avec un bénéfice net de 20 millions d'euros. Le groupe public avait accusé une perte nette de 488 millions d'euros à la même époque l'année dernière. De meilleurs chiffres donc causés par une hausse de la fréquentation sur les TGV et les trains de banlieue notamment, ce qui fait dire au patron de la SNCF, Guillaume Pépi, que le ferroviaire a le vent en poupe en France. Il reste que la dette de SNCF Réseau a franchi la barre symbolique des 50 milliards d'euros à 51,7 milliards d'euros. On termine ce journal avec l'inauguration ce mercredi à Saint-Raphaël du premier musée dédié à l'acteur comique Louis de Funès. Un musée ouvert pour les fans, ils sont toujours très nombreux en France mais aussi à l'étranger, et un musée qui remplace un premier fermé en 2016. Par ailleurs, la Cinémathèque va programmer au printemps prochain une exposition sur Louis de Funès. L'acteur avait débuté en chantant dans des cabarets avant de triompher dans des personnages d'hommes irascibles, de Rabbi Jacob à la Grande Vadrouille. À Saint-Raphaël, le reportage d'Oana Favenec.
Le plus célèbre des gendarmes avait déjà été invité à Avignon, invoqué par l'auteur Valère Novarina dans un texte intitulé « Pour Louis de Funès ». Mais cette fois, une ville, Saint-Raphaël, lui consacre un lieu entier, un musée sur sa vie, mais évidemment aussi sur son œuvre, pour laquelle l'acteur aura gagné une seule récompense, un César d'honneur à la fin de sa carrière. Sa petite fille, Julia de Funès, ressent donc une reconnaissance de l'intellectualisation du travail de son grand-père.
Si on s'arrête évidemment à certains films, on voit que c'est burlesque et que c'est parfois pas forcément au niveau de la culture attendue. Et puis quand on, notamment à travers le musée, quand on voit à quel point il était lecteur, très intellectuel d'une certaine façon, il disait Henri Fabre, Molière, Sacha Guitry, n'arrêtait pas de lire, d'annoter les textes. Et quand on se rend compte de ça, on voit à quel point finalement c'était intellectuel.
Louis de Funès a porté de nombreux films, faisant recette au box-office. Avec ses 17 millions d'entrées, La Grande Vadrouille en est le symbole. La commissaire du musée, Clémentine de Roudil, a donc voulu présenter un lieu à l'image d'un acteur populaire.
Souvent on parle de populaire et puis on plonge dans le populiste. Et là non, c'est vraiment une figure qui est adorée par tout le monde. C'est une forme aussi un peu de réhabilitation. Enfin, grâce à l'exposition de la Cinémathèque, tout ça va être bien rétabli. Mais c'est un génie de l'humour. C'est aussi quelqu'un qui est un marqueur d'une époque très fort. C'est quelqu'un qui a inventé quelque chose. Qui est devenu le génie des totalement intemporels, et ça aussi c'était très important.
L'annonce il y a quelques mois d'une exposition à la Cinémathèque a déjà donné lieu à des prises de position marquées dans le milieu du cinéma, et notamment un texte du magazine Transfuge, Louis de Funès et la nouvelle bien-pensance.
Oana Favennec, le temps de demain, jeudi 1er août, l'instabilité arrive par le sud-ouest. Le matin, des nuages de la Bretagne jusqu'au nord du pays, des pluies sur le sud de l'Aquitaine, du centre au nord-est, journée agréable. Idem au sud où le soleil va briller. Les températures comptées au plus chaud entre 20 et 30 degrés du nord au sud jusqu'à 34 degrés près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun ce soir à 22h. Ce sera Sébastien Berriot pour l'info.